Hello et bienvenue sur Entreprendre dans la Santé, le podcast qui a pour but de t'inspirer et de t'en apprendre plus sur l'entrepreneuriat dans la santé à travers le parcours de celles et ceux qui ont sauté le pas. Chaque discussion te permettra de tirer des choses concrètes et applicables de leurs réussites et erreurs, leurs stratégies et insights. Je suis Jean-Baptiste Michel, passionné d'entrepreneuriat et étudiant en master en management de la santé et data intelligence, et je te souhaite un bon épisode. Dans cet épisode d'Entreprendre dans la santé, je discute avec Jonathan Atlani, cofondateur et CEO de Sivan. Son entreprise développe un logiciel de gestion de planning et du personnel répondant aux problématiques des pharmacies, centres médicaux et dentaires, ainsi que laboratoires d'analyse. Nous revenons notamment sur ce que le conseil dans l'IT a appris à Jonathan pour développer un SaaS en santé comme Sivan, l'état d'esprit l'ayant permis d'acquérir ses 350 premiers clients et ses techniques pour créer un logiciel qui est utilisé par plus de 2500 utilisateurs. Dans cet épisode, Jonathan nous explique comment apprendre de ses futurs utilisateurs pour développer un SaaS en santé, comment aller chercher ses premiers clients et comment exploiter le potentiel du digital en santé. Bonjour tout le monde, bienvenue sur ce nouvel épisode d'Entreprendre dans la santé, le premier épisode de 2021. Aujourd'hui, je suis super content de démarrer cette année avec Jonathan Atlani, cofondateur et CEO de Sivan et de Cortex IT. Salut Jonathan, comment tu vas ?
Hello, salut Jean-Baptiste.
Merci d'avoir accepté cette invitation. Aujourd'hui, donc, on va passer 45 minutes à revenir sur ton expérience entrepreneuriale en santé, comprendre un petit peu comment tu t'es lancé donc, dans ce monde-là. Justement, ça va être intéressant parce que tu as un profil assez différent des invités précédents. Et puis, comprendre toi au quotidien, comment tu entreprends dans la santé, quelles pratiques tu mets en place pour tout simplement développer Sivan et que tu vas nous donner des conseils concrets pour se lancer. C'est parti ?
Avec plaisir, c'est parti. Et je suis très content d'être le premier invité de 2021.
Nickel.
Vraiment, c'est super, je suis très content.
Bon, alors Jonathan, je te laisse te présenter, que tu nous expliques un petit peu qui tu es, comment tu t'es lancé dans le milieu de la santé, progressivement bien sûr, et qu'on comprenne quelle formation tu as suivi, quelles étaient tes premières expériences, et de fil en aiguille, comment tu en es arrivé à entreprendre dans la santé.
Bien sûr. Alors, moi déjà, il faut savoir que je suis le petit-fils de pharmacien. Donc, mes deux grands-parents étaient pharmaciens, que mes deux parents sont médecins, que ma femme est médecin, que ses deux parents sont médecins. Et du coup, vu qu'ils sont dans la santé, moi, je suis école de commerce, école d'ingénieur. Mais très tôt, je savais que c'était, je voulais quand même un peu me spécialiser dans la santé. Donc moi, j'ai fait une école de commerce post-prépa avec une licence d'histoire en parallèle. Et un de mes premiers travaux en sortant d'école, j'ai travaillé dans une start-up dans la santé qui faisait du suivi de patients, qui s'appelait Specialis. Et j'étais directement directeur du développement. Et donc j'arrive dans cette start-up qui était déjà existante et j'avais besoin de reporting, etc. Et je vais voir les prestataires en informatique, en IT, et je leur dis voilà, j'ai besoin de ci, de ça. Et ils me disent écoute, c'est trois requêtes SQL, ça fait trois jours de travail. Donc, j'avais absolument aucune idée. Donc on parle et je dis ok, aucun souci, sauf que j'avais volontairement demandé à quelqu'un que je connaissais de venir assister à la réunion, qui avait beaucoup plus d'expérience dans l'IT, et quand il arrive au milieu de la conversation et qu'il redise la même chose, voilà, c'est trois requêtes SQL, trois jours de développement, la personne dit non, mais attends, celle qui était de mon côté, requêtes SQL, ça met maximum 5 minutes à faire, vous n'allez pas le vendre 3 jours, alors qu'en fait, ça fait seulement 5 minutes à faire. Et là, je me suis retrouvé vraiment débile, en train de dire, tiens, je suis en train de gérer quelque chose dont je ne maîtrise pas l'intégralité des choses. Et du coup, ce que j'ai fait, c'est que je suis retourné à l'école, une école d'ingénieur qui s'appelle DESTI.
Une école attends, comme ça là ouais. Vraiment, à partir de ce constat-là.
Ah ouais, vraiment. C'était presque humiliant de vivre quelque chose comme ça, de se dire,
ok, énorme.
Je savais déjà à l'époque que je voulais créer mon entreprise. Et en fait, si on n'a pas tous les outils derrière, pas d'être un pro, mais si on n'a pas tous les outils derrière, c'est assez compliqué. Vraiment, le but, vraiment, c'était une humiliation. Hein. Je l'ai vraiment vécu comme une humiliation ce jour-là. Et je me suis dit, bon, on va retourner retourne à l'école, on va réapprendre le dev. Et aujourd'hui, je sais développer, donc je développe très mal. Mais maintenant, je sais ce que c'est une requête SQL, je sais ce que c'est une ligne de code. Et je peux même, moi, parfois rentrer dans le code pour faire des modifications, etc.
Ok, et donc ce master-là, qui vient en plus de ton background business et histoire, est-ce que tu peux nous expliquer un peu quel type de personne t'étais ? Parce que tu vois, t'as quand même changé, donc on va dire trois fois de parcours. Bon, je peux comprendre business et ingé, mais l'histoire, qu'est-ce que ça vient faire dans tout ça ? Pour comprendre un peu comment tu t'es retrouvé là, dans la santé et dans l'IT.
Alors, non, l'histoire, c'est vraiment quelque chose que j'ai fait en parallèle. En fait, j'avais une opportunité avec mon école de commerce d'aller directement en L3, en licence d'histoire. Et vu que j'adorais ça et qu'on a énormément de temps en école de commerce, j'ai préféré le passer à étudier l'histoire. En plus, c'était hyper drôle parce que la plupart des profs, c'était à Grenoble, étaient très, 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 très à gauche. Et du coup, quand tu voyais arriver les personnes de l'école de commerce, c'est toujours très rigolo.
Ok, très bien. Donc, après ce master que tu as fait pour pouvoir créer ta boîte, pour pouvoir monter ton entreprise, c'est ce que tu as dit, qu'est-ce que tu as fait concrètement ? C'était quoi la première étape après avoir acquis ces compétences complémentaires ?
Alors, après, j'ai travaillé dans le consulting dans une entreprise qui s'appelle Alten. Où je faisais du placement d'ingénieurs et du coup ça m'a énormément appris, ça m'a vraiment appris le monde professionnel, la grande entreprise, comment parler avec des clients et comment gérer ces choses-là. Et après j'ai créé d'abord Cortex IT et ensuite Civac. Voilà, non, c'est vraiment quelque chose qui est à mon avis vraiment très très important. Du coup, moi, je donne des cours parfois à l'ESTI, des cours d'entrepreneuriat. Et souvent, je leur dis, ne négligez pas d'avoir un petit peu d'expérience avant de monter votre entreprise. Je sais que vous avez plein d'idées, je sais que vous avez peur qu'on vous la pique, etc. Mais c'est très, très, très important d'avoir une expérience professionnelle pour vous construire un réseau. Ça prend du temps. Donc, n'hésitez pas vraiment à découvrir le monde professionnel par une entreprise plus grande pour acquérir de l'expérience avant de vous lancer. Ouais. C'est le conseil que je donne à ces clients.
Ok, bon, tu vois, il y a différentes approches. Je t'ai dit, en fonction des invités, c'est ça qui est hyper intéressant sur ce podcast-là, c'est que je rencontre des invités qui me disent, j'ai tout de suite compris qu'il y avait un besoin, et puis j'ai rencontré un tel, et voilà, on s'est lancé, et ça a tout de suite pris. Et tu vois, c'est intéressant d'avoir différents avis là-dessus. Jonathan, tu pourrais nous expliquer rapidement qu'est-ce que Cortex IT vient faire dans ton parcours ? Quelle est la genèse du projet ? Comment vous êtes lancé ? À partir de quel besoin, en fait ?
Bien sûr. Alors, Cortex IT, c'est une entreprise de consulting assez classique, du consulting en IT, okay. C'est-à-dire qu'on fait vraiment de la prestation d'ingénieur pour des clients, donc pour AXA, Safran, Thales, etc. La vraie entreprise dans la santé, c'est vraiment Civan qui est arrivée derrière. Donc Cortex IT était avant la société mère et Civan était la société fille. Cortex IT générait du cash et ce cash, au lieu de soit de se verser en dividende, soit de l'utiliser autrement, on a décidé de réinvestir dans une deuxième boîte qui était Civan parce qu'on a vraiment senti qu'il y avait quelque chose à faire dans la santé.
Ok. Bon, jusque là c'est quand même assez clair. Enfin, ça se comprend, c'est assez facile à comprendre. Tu peux nous raconter un petit peu qui sont les différents membres de l'équipe à partir de Cortex IT et maintenant comment ça évolue avec Civan.
Alors, il y a mon meilleur ami qui s'appelle Yoni Atlan et c'est pas une blague. Je me rappelle du premier contrat qu'on avait signé. Les gens disent, je crois que vous avez signé avec un pseudonyme puisque Yoni Atlan, Jonathan Atlani, ils ont tous c'était la même personne. Alors, en fait, okay. Et c'est mon meilleur ami depuis pas mal de temps. D'abord, on a créé Cortex IT ensemble. Et puis, voilà, comme je t'ai dit très vite, on a senti que le marché de la santé était vraiment en plein boom. On en reparlera tout à l'heure, j'imagine. Et du coup, on s'est associés ensemble également pour créer Civan. Et on a aussi laissé une partie au CTO, qui du coup aussi détient des parts dans l'entreprise. Après, on a trois commerciaux, deux personnes en SAV et deux autres personnes en dev.
Ouais, ça on reviendra là-dessus peu après. Toi, avec ton associé d'origine, comment vos skills se complètent un petit peu est-ce que vous étiez juste meilleurs amis et vous avez dit ok, on se lance, ou est-ce que vous aviez vraiment une complémentarité tous les deux?
Non, on est quand même super complémentaires. Malgré tout, lui, c'est un vrai ingénieur qui a fait 5 ans d'études.
Ah, vrai. l'arnaque, Jonathan aussi.
Non, ça m'a, j'ai vachement appris, mais entre quelqu'un qui fait.
Ouais, non, je suis d'accord.
5 ans, plus les stages, plus les alternances, etc. Il fallait qu'il soit là. Et puis surtout, il est beaucoup plus dans l'administratif, il est beaucoup plus patient que moi, il est. On se complète okay. Bien aussi, ce qu'on appelle dans les hard skills et les soft skills, c'est-à-dire que, déjà dans le métier qu'on fait, lui est beaucoup plus dev, il va beaucoup plus savoir gérer un projet informatique beaucoup mieux que moi. Moi, j'ai vraiment testé dans la partie commerciale, dans la partie partenariat, dans la partie, marketing, etc. C'est des choses que j'ai déjà faites. Et puis, dans le soft skill, c'est-à-dire qu'il est beaucoup plus posé, beaucoup plus sécurité, etc. Alors que moi, j'ai, évidemment, je suis plus dans la partie opérationnelle. Et donc, forcément, opérationnel, on fait plus la guerre. Bien, on y va, on se lance, on va vite, etc. Donc, le fait d'avoir cette bonne balance-là fait qu'on trouve toujours des bons compromis où, au final, on sait que c'est plutôt la bonne décision.
Est-ce que ça a joué du coup dans l'idéation, dans la phase d'idéation autour de Sivan? Comment vous en êtes arrivé à ce constat? Donc tu m'as dit, on a senti qu'il y avait une opportunité et on a voulu donc investir ce cash dans une société. Pourquoi la santé? À partir de quel constat, tu vois? Et pourquoi sur la gestion de planning et pas sur une autre branche de la santé? Tu vois, il y en a tellement.
Ouais, bien sûr. Ah ouais, je comprends bien. On a senti le coup. En fait, il y a eu un article du Monde qui est sorti début 2019, qui a dit qu'il y avait 63% des médecins nouveaux inscrits au Conseil de l'Ordre qui voulaient être salariés et qui voulaient plus être libéraux. Et en fait, ça a été un peu une révélation pour nous de nous dire, tiens, ça se trouve, la médecine de demain, elle n'aura absolument rien à voir avec la médecine qu'on a connue, que ont fait mes parents les médecins de la génération de mes parents, en tout cas, qui avaient leur propre cabinet, qui avaient de la patientèle, qui venaient, etc. Parallèlement à ça, on a vu énormément de centres médicaux s'ouvrir. Donc, il y a des métiers qui l'ont vu plus anciennement que les autres, typiquement les laboratoires d'analyse médicaux. Aujourd'hui, de trouver un laboratoire d'analyse médicale qui soit parfaitement indépendant, c'est de plus en plus rare. Même chose pour la nouvelle génération de dentistes. Avant, ils étaient tous, leur objectif était d'être dentiste libéral. Aujourd'hui, ils font partie chez Dentego, Dentibis, Excel Santé, etc. Et du coup, là, on a senti le truc. En se disant, bah, tiens, la manière de faire de la médecine de demain va changer. Du coup, la manière de s'outiller et la manière de gérer les gens va énormément changer. Et on s'est vraiment engouffré là-dedans. Je te cache pas que, voilà, fort de ce qu'on voyait, de ce qu'on entendait aussi, grâce à notre réseau, on s'est dit, OK, la jeune génération va faire de la médecine groupée avec du multisite, et du coup, faut l'aider à s'optimiser. Parce que si on fait de la médecine aujourd'hui, pas comme on l'a fait hier, ça va avoir des bouleversements, mais extraordinaires dans la manière de gérer sa patientèle et de gérer sa médecine. Et deuxièmement, on s'est rendu compte que la plupart des gérants de centres dentaires, de centres médicaux, de centres de labo n'étaient même plus des médecins.
Et c'était là, des managers, en fait.
C'était des managers. Et du coup, on gère pas un médecin comme on gère un responsable marketing. On gère pas un médecin, on gère pas un infirmier ou un dentiste comme on gère un responsable de vente. Et du coup, il fallait vraiment un accompagnement. Et c'est exactement ça, ce que fait Sivan. Ce que fait Sivan, c'est accompagner les professionnels de santé et les gestionnaires de centre à optimiser leur gestion.
Ok, intéressant, très intéressant ce que tu dis, parce que c'est quelque chose que j'ai moi-même ressenti à travers mes expériences. Donc quand je travaillais donc au Canada, j'étais justement dans la dentisterie, dans les technologies dentaires, et on voyait donc un nombre croissant de DSOs qui sont des groupements dentaires, Et c'était, on en a même créé une nouvelle branche dans la gestion de compte parce que faut vraiment les gérer d'une manière différente parce que bah, tout simplement, c'est pas les mêmes problématiques quand on a 30 cliniques dentaires versus 2 ou 80, 100. Et aux États-Unis, au Canada, ça peut vite devenir énorme. Donc, c'est des marchés énormes à prendre, j'imagine.
Exact. C'est exactement ça. Et donc, déjà, on a senti la mutation et on a senti que c'était un... Ouais, on sentait qu'il y a de l'avenir, puisque, encore une fois, la jeune génération, typiquement, j'ai ma cousine qui est dentiste, elle veut être salariée. C'est-à-dire qu'elle veut pas avoir de problème de paperasse, elle veut avoir son congé maternité quand elle est enceinte, elle veut, etc., etc. Chose qui n'arrive plus du tout, et qui était impensable quand, je te dis, la génération de mes parents voulait faire. Et voilà, donc, c'est nos clients aujourd'hui.
Ouais, c'est ça. C'est nos clients aujourd'hui. Tu pourrais nous expliquer concrètement, vraiment, c'était quoi les premières étapes, comment vous avez développé un MVP donc de votre SaaS, parce que c'est un logiciel, c'est un SaaS. Ça ressemblait à quoi, comment vous l'avez testé et auprès de qui?
Alors, on a commencé par les pharmacies. Donc, en fait, alors, au tout début, il y avait mon grand-père, je t'ai dit, était pharmacien. Il avait un associé qui avait un problème de badgeuse. Il a dit, voilà, c'est la cinquième fois que je change de badgeuse, j'en ai marre, etc. Et il a dit, voilà, toi, t'es ingénieur, débrouille-toi, crée-moi une badgeuse, etc., qui soit un peu plus intelligente que ce que j'en ai marre, etc. Donc, on lui a créé une badgeuse. Et puis, un mois après, il m'a dit, ah, elle est géniale, ta badgeuse, maintenant, j'aimerais bien, est-ce que tu peux intégrer dedans, une partie comptabilité, comme ça les heures qui ont été badgées, je peux les envoyer à mon comptable. Donc j'ai pris contact avec son comptable, on a sorti des fichiers CXV qui sont implémentables sur leur logiciel de paye. Après il m'a dit, bah, c'est super, maintenant est-ce que je peux faire les emplois du temps, comme ça j'ai la différence entre le planifier et le réaliser. Ok, super. Après il m'a dit, oh, est-ce que tu peux rajouter...
Toujours plus. Toujours. Attends, tu crées toutes les fonctions juste pour lui?
Au départ, ouais. Au départ, oui. Maintenant, tu sais, les pharmacies, elles se sont pas regroupées puisqu'elles sont toutes indépendantes, mais elles se sont regroupées sous forme de groupement. Donc, elles sont toutes indépendantes, mais appartiennent, à 90%, elles appartiennent à des groupements. Et du coup, quand il parlait pour lui, je sais que c'était un problème qui était assez récurrent parmi ses collègues, quoi. Et du coup, voilà, petit à petit, je lui fais l'outil un peu sur mesure, donc je me suis en plus entouré d'un autre développeur qui était très très bon, ensuite de quelqu'un d'autre, ensuite on a parlé avec des juristes pour intégrer toute la convention collective à l'intérieur pour que ce soit légal, on a, etc. Et du coup, petit à petit, on a formé on leur a créé un tableau de bord, un dashboard, etc., etc. Et en parlant avec d'autres professionnels de santé, les gens, ils ont dit qu'ils avaient même besoin. Et en plus de ça, ils avaient besoin, certains, d'un outil sans badgeuse. Et donc, on a fait une option badgeuse, une option sans badgeuse. On est allé plus loin pour les pharmacies qu'on est allé dans les autres professionnels de santé, parce qu'on s'est interfacé avec d'autres entreprises. On a eu un contrat de partenariat avec une entreprise qui s'appelle CGDIM, qui est cotée en bourse, et sa partie officine qui s'appelle SmartRx, on avait un contrat avec eux. Et puis on a signé aussi d'autres contrats avec notamment Office Santé. En fait, c'est des extracteurs de données qui, en fonction de l'affluence, nous on a fait un calcul, et en fonction de l'affluence, c'est-à-dire qu'on récupère les taux de TVA de ce qui a été vendu l'année dernière au même moment, plus lissé sur les trois derniers mois. Et notre algorithme d'intelligence artificielle est capable de prévoir l'optimisation de la gestion des plannings de tout le monde. Et du coup, on est capable de dire, tiens, demain, il va falloir 3 personnes le matin de 8h à 9h, 2 personnes de 9h à 10h, etc. Donc, en fonction de TVA, parce que tu sais, dans une pharmacie, on vend des TVA à 2,1, ouais. À 5,5 et 10 à 20, et les TVA à 2,1 et à 5,5, c'est les préparateurs et les pharmaciens qui peuvent les vendre. Par contre, à 20, c'est uniquement les conseils dermatocosmétiques, etc. Donc, en fait, en fonction de ça, on a sorti un logiciel d'intelligence. Enfin, on a implémenté des scripts d'intelligence artificielle qui donne de la prédiction. Et l'objectif, c'est d'aller encore plus loin, donc c'est-à-dire à partir du moment où on pourra faire un peu une sorte de prêt de salarié, on pourra on pourra essayer d'optimiser cette partie-là aussi. Je m'explique. Typiquement, imaginons dans une ville de province, Tours, par exemple, il y a l'avenue principale. Sur cette avenue principale, il y a trois pharmacies. On a une qui est à côté d'une école, on a une qui est à côté d'un EHPAD et on a une qui est à côté du centre d'affaires. Actuellement, quand les pharmacies travaillent, elles travaillent indépendantes, de manière assez indépendante. Donc elles sont vraiment très autonomes. Et du coup, elles ont trois pharmaciens sur l'intégralité de la journée. L'objectif, c'est de faire en sorte, de la même manière que les dentistes, qu'il y a un regroupement et donc un partage des ressources, de dire, bon, à partir de demain, on va essayer d'optimiser en fonction des heures, en se disant, bon, bah tiens, la pharmacie A qui est à côté de l'école, ses horaires d'affluence, c'est 7h25 et 8h25, c'est les mamans qui, voilà, leur enfant, il est un peu fatigué, on va acheter de la vitamine C. Entre midi et 2, la pharmacie C, qui est à côté du centre, d'affaires, bah, les gens, ils sortent, ils ont un peu mal à la tête, ils vont acheter du Doliprane. À 15h, la personne âgée, elle a fini sa sieste, il faut qu'elle aille acheter à l'EHPAD, il faut qu'elle aille acheter ses médicaments. À 16h30, la sortie des cours, le petit s'est un peu blessé, donc il faut acheter du Naturophone, etc. Et du coup, dans un système où tout le monde travaille indépendant, de manière indépendante, tu as trois pharmaciens toute la journée. Nous, notre objectif, c'est de dire, voilà, en fonction des horaires, on a besoin de deux pharmaciens, et un pharmacien qui va être itinérant en fonction des horaires. Mmh. Et là, tout le monde va être gagnant, parce qu'en plus, il y a une pénurie de pharmaciens, une pénurie de professionnels de santé, notamment dans la plupart des villes, c'est assez impressionnant.
Oui, donc, ça s'applique à d'autres secteurs, forcément.
Et donc, si on arrive à optimiser cette gestion-là, pour le coup, on travaille beaucoup plus intelligemment. Et ça, c'est aussi ce qu'on arrive à faire grâce à l'IA. Quoi. Et d'ailleurs, c'est même pour les pharmaciens, c'est beaucoup plus intéressant pour eux, plutôt que de 15h à 16h, de faire une heure à se tourner les pouces. Enfin, ils sont bac plus 6 quand même, pour être fleur pendant une heure, autant travailler dans la pharmacie qui est à 500 mètres plus loin. Mais bon, vu qu'il y a marché, c'est un jour de marché, donc on a besoin d'une personne en plus. Et voilà, donc l'objectif, c'est aussi de travailler mieux, en plus de travailler de manière un peu plus intelligente. Et donc, c'est ce que fait Sivan avec les autres.
Ok. Bon, Jonathan, t'es allé très vite là du MVP à ta vision, je pense, de la santé de demain. On va revenir rapidement sur quelques étapes. Donc, j'ai compris comment vous avez décroché vos premiers contrats. Est-ce que toi, tu pourrais nous expliquer justement comment vous avez grossi au fur et à mesure de ces différentes étapes. J'aimerais comprendre vous comment vous êtes structuré en tant qu'entreprise. Comment t'es passé de toi tout seul à 2-3 personnes, c'est ça. Puis après tu m'as parlé des juristes. Tu vois, parce que là tu me parles quand même de projets qui ont l'air d'être plus grande envergure que juste ce premier utilisateur, cette première pharmacie de la MVP. Donc, est-ce que tu pourrais me retracer vraiment les grandes étapes et tes conseils surtout pour grossir, aller chercher donc des clients, puisque c'est de ça dont on parle, des pharmacies ou des cliniques partenaires, et se structurer de fil en aiguille.
Bien sûr. Donc effectivement, donc une fois qu'on avait un produit qui était assez stable, donc on n'avait pas encore l'intelligence artificielle.
Quand même, je me doute.
On n'avait pas encore. On a vu que le besoin était assez récurrent. Donc d'abord, c'était beaucoup de bouche à oreille. On passait énormément de temps à structurer l'offre en fait. On a passé énormément de temps à structurer l'offre. On savait même pas combien le facturer au début. On ne savait pas si on devait facturer par utilisateur ou par établissement, etc. Finalement, on a fait le choix par établissement, puisque on s'est dit que certains professionnels de santé ne rempliraient pas tout le monde volontairement pour éviter de payer plus. Évidemment, c'est 10. Okay. À partir de 10, on paye un peu plus cher, ils vont dire, très bien, on va remplir seulement 9.
Donc, par établissement, juste pour revenir sur le business model, parce que ça faisait partie de mes questions aussi. Donc, ça veut dire que, par exemple, j'ai 3 pharmacies. Peu importe le nombre d'utilisateurs réels, je vais payer pour mes 3 pharmacies et vice versa, si j'ai 30 cliniques dentaires, je vais payer pour les 30, c'est ça?
Exactement, exactement. C'est pas, okay. C'est vraiment par établissement un numéro de siret, mm-hmm. on facture directement, voilà.
Est-ce que tu peux nous donner des chiffres? Est-ce que c'est le même tarif, par exemple, pour des pharmacies que pour des cliniques dentaires ou des laboratoires d'analyse médicale?
Ils n'ont pas les mêmes fonctionnalités, ils n'attendent pas les mêmes choses. En fait. On en parlera après, si tu veux, par rapport aux centres dentaires, aux centres médicaux, etc. On a vraiment essayé ensuite d'adapter spécifiquement. Donc, on est resté que dans le domaine de la santé. On a eu, par exemple, des restaurants, des bars, des boulangeries qui nous ont dit ce que vous pouvez faire. Pour l'instant, on n'a pas envie, c'est pas notre velléité. On a vraiment envie de rester dans le secteur de la santé. Mais ce qu'on offre aux centres dentaires, par exemple, c'est un meilleur taux d'occupation. Donc, on leur donne pas d'intelligence artificielle, puisque eux, ils facturent pas des médicaments. Typiquement, on est allé voir un grand centre dentaire qui on lui a démontré que son taux d'occupation était de 60%. Et on a fait passer de 60 à 85%. Pourquoi? Parce qu'on était capable de prévoir en disant, tiens, il y a telle salle qui est vide, telle salle qui est vide, telle salle qui est vide. Et bien, plutôt que de mettre personne, voici l'intégralité de tes praticiens qui sont disponibles. Donc, propose-leur une vacation ici. Et ce sera beaucoup plus utilisé, du coup. Ici, il y a une pénurie de praticiens. Et ici, il y a un trop plein de salles. Tu fais passer l'un vers l'autre et tu vas pouvoir gérer tes professionnels de santé de manière beaucoup plus intelligente. Donc, on en revient un peu à l'optimisation, encore une fois, qu'on a fait avec les pharmacies. Mais ce qu'on commercialise pour les centres dentaires, c'est vraiment plus de l'optimisation de salles et une meilleure communication entre eux. Bon, avec en plus toute la partie congé, toute la partie comptabilité, etc., où ils faisaient absolument tout à la main. Donc là, on l'automatise vachement. Donc, c'est pas les mêmes prix parce que c'est pas les mêmes fonctionnalités qu'on vend. Les centres médicaux, même chose. On travaille avec plusieurs autres centres médicaux qui ont énormément de remplaçants. Et grosso modo, tous les mois, l'intégralité des remplaçants nous disent, voilà, moi, j'ai envie de travailler tel jour, tel jour, tel jour, tel jour, tel jour dans le mois. Et du coup, la personne qui gère le centre médical dit, ah bah tiens, dans la salle numéro 1, j'ai prévu qu'il y ait trois personnes de 9h à 11h, je vois que de 9h à 11h, j'en ai que deux, et il voit l'intégralité des remplaçants qui sont disponibles. Et du coup, il peut choisir en appelant directement ces gars qu'il a lui-même rentré dans son logiciel.
Ok. J'ai plusieurs questions justement sur... j'en ai deux qui sont assez différentes. Une, c'est sur les données. Quelles données vous allez collecter sur vos clients et sur les utilisateurs? Et comment vous les stockez, ces données? Est-ce que vous allez les utiliser, vous, pour renvoyer des informations? Comment ça se passe un petit peu? Enfin, si tu pouvais vulgariser, je sais que tu es quand même ingénieur, moi je n'ai pas encore cette prétention.
Alors, grosso modo, effectivement, on travaille avec de la donnée, et la donnée appartient à l'établissement. Donc déjà, on a beaucoup travaillé pour ne pas faire en sorte d'avoir des données de santé. C'est très important pour nous, parce que sinon, il fallait avoir un HDS, un hébergeur de données de santé, ce qui est beaucoup plus cher, etc. Alors, en bref, c'était pas du tout l'objectif. Et les données appartiennent à l'établissement, en fait. C'est-à-dire que c'est lui qui remplit son logiciel et ses propres données à lui. Voilà, grosso modo, donc on s'est assez bétonné avec les juristes pour que le contrat qu'on leur fasse signer soit un contrat dans lequel ils sont maîtres de leurs données. Et puis, donc toute la partie RGPD également est inclus, c'est écrit dans le contrat. Et enfin, on a quand même fait le choix d'être chez OVH avec des serveurs qui sont hébergés en France. Enfin, des serveurs en France, donc les données sont hébergées en France aussi. Pourquoi? Puisque on est français, vous voulez des serveurs français aussi. Et ça nous semblait important d'avoir tout ça en France.
Ouais. Moi, j'ai des questions sur les connaissances. Donc, quand on monte une startup dans la santé, tu vois, là, tu me parles quand même de HDS, etc. Moi, ça me parle, mais toi, à l'époque, ou ton associé, ou n'importe quelle personne qui se lance et qui veut entreprendre dans la santé, tu vois, il y a quand même des barrières assez hautes. Comment vous avez appris sur ce secteur-là? Comment vous êtes soit entouré, soit formé? Tout simplement combler à ce manque de connaissances très spécifiques à l'industrie de la santé.
Là, je suis 100% d'accord avec toi. C'est eux qui ont ressenti le manque. c'est la plupart des centres médicaux qui étaient encore au papier et au stylo. On dit, tiens, ça serait bien qu'il y ait un logiciel qui soit vraiment dédié à la santé qui fasse. On a eu de la chance, bah, je te dis, grâce à notre réseau, de connaître ces personnes-là. Et donc, typiquement, c'est très simple d'aller les voir, généralement après le boulot, parce qu'ils travaillent énormément. Et on leur a dit, voilà, on a fait ce logiciel-là pour les pharmaciens. On aimerait bien le déployer dans les centres médicaux. De quoi tu as besoin concrètement? Et même chose, au début, ils ont dit, on a besoin de ça. On a comme la première partie badgeuse, ensuite, machin. Et ils ont dit, voilà, moi, le truc qui m'embête le plus, c'est le taux d'occupation des salles. Ensuite, c'est le fait de savoir qui peut être disponible. C'est le fait de savoir quel remplaçant peut venir à tel moment. Ensuite, comment je communique avec lui. Ensuite, comment j'ai mon registre d'entrée sortie du personnel, etc. Et puis, on y allait. Simplement, moi, il y a des fois où je suis allé 3 jours dans un centre médical pour voir à quoi ça ressemblait. Et il y a des choses que je dis, tiens, ah, vous faites comme ça? Pourquoi ce process, il est comme ça? C'est quoi? C'est extrêmement long.
C'est pas la même chose d'être dans la salle d'attente et être dans le back-office, quoi. Enfin, dans le backstage, je veux dire.
Voilà. Et du coup, le problème, c'est que ça crée des goulets d'étranglement qui sont très, très forts, quoi. C'est-à-dire qu'il y a une seule personne qui a le savoir, et le jour où cette personne part, tout le savoir part avec. Et le temps qui se restructure, etc. Il leur fallait un logiciel pour à la fois gagner du temps et en même temps partager les compétences.
Ouais. Mais du coup, moi, ma question était plutôt sur, tu vois, des données, par exemple, les données de santé. Tu vois, ce genre de connaissances, c'est pas un dentiste qui va te l'apprendre. Ça, c'est à toi en tant qu'entrepreneur, en tant qu'entrepreneur, de te former là-dessus. Est-ce qu'il y a des formations qui existent là-dessus? Est-ce que tu as fait, je sais pas, des modules en ligne, ou est-ce que vous avez été accompagné par un incubateur dans la santé?
Non, même pas. En fait, là, je vais revenir sur la partie Cortex IT, donc la partie consulting. Ouais. En gros, il y a deux manières de faire du consulting. Premièrement, tu places un ingénieur. Donc, tu places un ingénieur chez quelqu'un, et chez un client, et du coup, il va faire sa mission, et dès qu'il a fini, il revient dans tes équipes. Et la deuxième manière de faire du consulting, c'est ce qui s'appelle le forfait, où tu as un client qui dit, j'aimerais bien ça, et les mecs qui peuvent rester chez toi, moi, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir cette application-là.
Un projet en interne, oui.
Un projet en interne, et du coup, on le fait chez nous, et dès qu'on livre au client, on a des livrables. Et parmi nos clients, on avait notamment l'Institut Curie, où on a placé des ingénieurs là-bas, et on a fait également un forfait pour un centre médical qui voulait un logiciel de dossier patient. Et du coup, on a énormément travaillé là-dessus pour savoir, là pour le coup, on a pris un hébergeur de données de santé, on s'est vraiment énormément intéressé là-dessus. Donc évidemment, c'est mon équipe qui l'a fait. Moi, je l'ai piloté de très très haut. J'avais un directeur de projet, un dev, un UX, etc. Mais ça nous a énormément familiarisé avec ce milieu-là.
D'accord. Donc, intéressant, parce que du coup, ça venait déjà d'avant, tu avais déjà cette connaissance, et en même temps, les compétences du conseil, ça t'aide, je pense, à entreprendre, cette capacité à te plonger dans un sujet. Tu vois, c'est pas donné à tout le monde, et de creuser, de trouver vraiment toutes les informations pour mener à bien ton projet. Je pense qu'un bon consultant va être probablement un bon entrepreneur pour ça.
C'est possible. Après, vraiment, moi, très tôt, je savais déjà, un, que je voulais être entrepreneur, et deux, que c'était vraiment dans la santé que je voulais me spécialiser. Et c'est ce que je conseille à tous les entrepreneurs, quoi. Si vraiment c'est quelque chose, c'est où vous voulez aller, vous devez être constamment en veille. Constamment en veille. Vous parlez à quelqu'un, tiens, lui, il est dans la santé, bah, très bien, je vais aller lui parler. Tiens, lui, il connaît quelqu'un qui est dans la santé, son premier cercle, son deuxième cercle, etc. On peut énormément apprendre de tout le monde, et si on est en veille permanente, c'est comme ça qu'on va réussir. Faut vraiment pas laisser une opportunité passer. Vraiment, toutes les chances de rencontrer des gens qui ont le savoir, qui ont la connaissance, ils vont vous enrichir. Donc, si vous savez ce que vous voulez faire dans le secteur et dans l'entrepreneuriat, n'hésitez pas à aller voir les gens. Et puis, il y a des gens qui vont donner des conseils. Je leur en aurais jamais demandé si je savais pas où je voulais aller. Donc voilà.
Et Maintenant, plutôt sur la partie développement de Sivan, est-ce que tu pourrais nous partager des chiffres, notamment sur, tu vois, moi j'ai vu sur votre site, il y a 1000 clients satisfaits. En tout cas, c'est ce que vous mettez en avant. C'est quoi un peu la proportion de par branche, et c'est quoi la direction que vous souhaitez prendre avec Sivan pour la suite?
C'est plus de 1000 utilisateurs satisfaits.
D'accord.
En tout, je crois, il y a peut-être 2500 utilisateurs de Sivan.
Donc utilisateurs, tu nous parles là de personnes qui ont quoi? Qui ont un profil enregistré? D'accord. Donc ça va être par exemple une assistante, une, je sais pas, hygiéniste, comment on appelle ça? Assistant dentaire, par exemple, un dentiste, un chirurgien. Ok.
Radiologue, un préparateur, un
Ok.
pharmacien, et puis après ça dépend qui veulent mettre à l'intérieur. Donc
Ouais. D'accord.
voilà.
Et sur les branches, du
Et
coup, la répartition?
branche, on a après quoi, on a plus de 150 pharmaciens, on a à peu près 300 350 clients aujourd'hui.
Ok.
Donc 150 pharmaciens, une centaine de centres dentaires. Une cinquantaine de centres médicaux, peut-être une vingtaine de centres radiologiques, et le reste, c'est quelques EHPAD. On a deux EHPAD et des instituts et des centres biologiques, des laboratoires.
Et d'accord. Et sur le futur, est-ce que toi, avec ton équipe, est-ce que vous avez compris, est-ce que vous avez capté une opportunité sur le marché de développement qui est plus profitable, plus intéressante pour la suite, tout simplement? Est-ce que vous allez, par exemple, je sais pas, abandonner les pharmacies pour faire que des laboratoires ou que des cliniques? Est-ce qu'il y a justement, au contraire, une nouvelle branche qui va être ajoutée? Vous allez rester en mode développement de tout? Comment ça va se passer?
En négociation avec des centres optiques, on est pas mal en négociation avec des centres optiques puisque eux aussi veulent optimiser leur gestion. Et puis encore, je pense qu'on est encore au crépuscule de ce qu'on pourrait faire. Je pense qu'il y a encore, typiquement, il y a 23 000 pharmacies en France, donc j'ai conscience que le produit pourra pas intéresser les 23 000 pharmacies en France, mais si on arrive à avoir même 10% du parc. Donc on passe à 2300. 2300,
Ouais.
c'est un objectif qui est, à mon avis, atteignable. Les centres dentaires et les centres médicaux, ils s'en ouvrent tous les jours. Et tous les jours, ils ont besoin de process, ils ont besoin d'accompagnement, etc. Et du coup, il faut vraiment qu'on soit la référence. C'est la raison pour laquelle, c'est ce que je t'ai dit tout à l'heure, on a des bars, des restaurants, etc., qui nous ont dit, attendez, venez, on implémente chez nous, c'est exactement ce dont on a besoin, etc. Et pour l'instant, on n'a pas une énorme envie de se diversifier. On veut vraiment rester dans la santé. Déjà, c'est quand même le secteur qui nous tient à cœur. Et c'est quand même mieux de faire ce qu'on aime. Et puis, à mon avis, on n'est pas allé au bout. Vraiment, je pense qu'on n'est pas allé au bout. Donc,
Sur le produit, là, tu me parles, par exemple.
sur le développement au marché, sur l'accès au marché.
D'accord.
On a un produit qui est très intéressant. Moi, je pense que c'est le meilleur du marché, mais après, ça fait un peu le. C'est la mère qui dit, oh, regarde mon fils comme il est beau. Ben oui, mais t'es pas.
C'est sur le podcast, ça se comprend. Tu viens de passer 37 minutes à parler de ton produit et ton expérience. C'est pas grave.
Ça fait un peu la mère qui dit, c'est le plus
Ouais.
beau. Mais on croit. Et du coup, bah, le but, moi, je pense qu'on n'a pas fait le tour et je pense qu'on a encore d'autres clients à aller chercher sur les centres dentaires, les centres médicaux, les centres radiologiques, les laboratoires d'analyse médicaux. Les laboratoires d'analyse médicaux, typiquement, c'est un marché qui, actuellement, avec le Covid, ils sont exténués. Ils ont vraiment besoin enfin, ils ont travaillé énormément ils ont fait comme ils pouvaient, mais parfois, ils étaient un petit peu débordés par la situation. Un logiciel qui structure et qui est capable d'intégrer les gens en disant voilà, ici il y a tant de personnes qui vont arriver, donc il faut autant de personnes ici. Ici vous êtes en repos, donc on va redispatcher l'équipe, etc. Un truc un peu intelligent, ça permet de mieux organiser. Et à mon avis, ils en auront besoin à plus long terme quand il y aura plus de Covid. On espère en tout cas, après la première partie de vaccination, je pense qu'ils auront besoin d'une restructuration. Et un outil comme Sivan, là, ça peut leur convenir. Donc, tu vois, il y a un peu le contexte d'actualité qui peut dire, bah, tiens, ici, tu te concentres toi plus sur eux, ici, tu te concentres toi plus sur eux, etc. Mais ce qui est sûr, c'est que pour l'instant,
Jonathan, on arrive vers la fin de cette discussion. Avant qu'on se quitte, j'ai quelques questions à te poser. Ouais. Toi, si tu devais nous raconter le moment le plus compliqué de toute cette aventure, c'est quoi la plus grosse galère, le plus gros challenge que vous avez dû surmonter avec Sivan?
Le début, il était dur.
Le début, quand, ça veut dire quoi concrètement? Sur le produit, sur l'acquisition?
À partir du moment où on avait un produit qui était fait et qu'il fallait taper à la porte d'un praticien pour lui dire « Hey, salut, tu sais ce que tu fais ?» Et bah, tu le fais pas assez bien et regarde, on a un logiciel qui va te faire gagner du temps, qui va te faire gagner de l'argent et qui va te permettre de mieux optimiser ton temps et ta gestion des gens. Le mec, il te regardait en disant « Non, toi, je suis très bien avec mon papier stylo, je suis très très bien avec ce que je fais. Enfin, laisse-moi tranquille, je t'ai absolument rien demandé. » Et actuellement, moi je dis toujours, mes meilleurs vendeurs, c'est mes utilisateurs. C'est-à-dire que mes clients, c'est eux qui peuvent beaucoup mieux me vendre mon produit que ce que je peux faire moi. Et ça s'est vraiment vérifié quand on allait taper à la porte et qu'ils ont dit « qui t'envoie ?» Le « qui t'envoie », il est hyper
donc, les recommandations, les referrals, ça joue énormément.
Okay. Encore plus chez les professionnels de santé où c'est un
problème. Je pense aussi, ouais. C'est hyper intéressant et pertinent ce que tu dis. J'ai moi-même fait une étude sur le comportement d'achat des dentistes pour un workflow qui s'appelle le Digital Implant Workflow. Alors là, je vais vendre une solution qui n'est pas la mienne. Cet épisode n'est pas sponsorisé. Et dans les résultats qui sortaient...
Il n'y en a vraiment aucun sponsor.
De toute façon, je cite pas la compagnie, l'entreprise. Dans les résultats qui sortaient, le premier était vraiment les recommandations. C'était pas les événements. C'est-à-dire que sur l'intention d'achat, c'était les recommandations par d'autres dentistes. Et donc, je pense qu'il y a vraiment tellement de choses à faire d'un point de vue marketing pour creuser ça, pour construire des cas où on va utiliser les autres. Bah alors, je sais que c'est compliqué de faire de la pub pour certaines branches, mais vraiment utiliser les recommandations en santé, ça a l'air d'être quelque chose d'assez porteur. Ok, et dernière question, moi j'aimerais te demander si tu devais parler au Jonathan qui sort d'école, et qui, tu vois, est intéressé par la santé, mais bon, se tâte un peu, ne sait pas quoi faire, a déjà fait un stage, disons. Ce serait quoi tes conseils pour se lancer dans le monde de la santé et pourquoi pas entreprendre un jour?
Alors moi, je vais peut-être un peu me répéter. Moi, je pense que c'est hyper important de connaître le monde du travail et de connaître, de savoir ce qu'il faut faire avant de se lancer. Et s'il veut se lancer dans la santé, en tout cas, c'est... Enfin, moi, je l'ai vécu de l'intérieur, parce que je te dis, ils ont tous médecins chez moi. Pour moi, c'est un des meilleurs secteurs, parce qu'il y a un vrai impact. Quoi. J'ai eu d'autres expériences dans lesquelles je sentais que mon impact était assez nul. Là, on sent qu'on peut changer les choses. Voilà. Moi, ce que je leur conseillerais, c'est de dire, tiens, si on veut vraiment aller dans la santé, allez, une petite année, voire deux ans pour comprendre le secteur, pour me faire des contacts. Ensuite, je me lance à fond dans le truc, quoi. J'ai vu qu'il y avait un manque, et il y en a plein des manques dans la santé. Moi, je pense que, honnêtement, je pense que 99% des applications de la santé sont pas encore sorties. Mais j'en suis sûr. Donc, il y a vraiment énormément de trucs à faire. Aujourd'hui, tout le monde a un smartphone. Aujourd'hui, tout le monde l'utilise pour communiquer, etc.
Et surtout, on va dans cette direction. Au niveau des, ça met du temps. Dans certains pays, ça en met moins que d'autres. Mais on va vraiment dans cette direction. Et là, je te soutiens là-dessus. Donc,
voilà, donc moi, je pense qu'il faut, une fois qu'il a vraiment identifié bon, le secteur, s'il a compris, la santé et le truc dans lequel il veut faire, c'est qu'il aille voir les gens, puisque les gens, ils vont être couverts et qu'il y aille à fond. Vraiment qu'il y aille à fond.
Merci. Merci, Jonathan. Merci d'être passé sur le podcast. Et puis, bah, de toute façon, on reste en contact. Je te souhaite tout le meilleur pour Sylvane. Et puis, bah, à bientôt. J'espère que cet épisode t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à lui laisser une super note sur ton appli préférée de podcast et à en parler autour de toi. Tu peux également m'envoyer un message sur mon LinkedIn Jean-Baptiste Michel afin de me dire ce que tu en penses. Moi, je te dis à très vite pour un prochain épisode d'Entreprendre dans la santé.